Bon retour parmi nous. En poursuivant notre lecture aujourd'hui, nous verrons jusqu'où un homme est prêt à aller pour obtenir ce qu'il veut. Ce n'est pas très beau à voir. Malgré tous les efforts de l'homme pour contrecarrer les plans de Dieu, les voies de Dieu sont toujours plus élevées que les nôtres. Personne ne peut l'arrêter. N'est-ce pas encourageant? Allons-y! Dans notre dernière lecture, le prophète Balaam a accompagné Balak dans les montagnes pour prophétiser sur le peuple de Dieu, Israël. En fait, il n'y avait aucune raison de le faire. Dieu avait déjà parlé à ce sujet. La bénédiction de Dieu était sur le peuple et aucune ruse ou divination n'allait y changer quoi que ce soit. Ce qui peut sembler être des offrandes légitimes à Dieu ici n'est pas du tout ce que Dieu désirait. Comme nous le voyons au verset 23, lorsque Balaam dit à Balak, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Balaam, comme nous avons déjà vu, n'était pas là pour être la porte-parole de Dieu, mais pour son propre intérêt. Il pensait pouvoir évoquer les prophéties sur Dieu qui prouveraient sa légitimité devant Balak et lui permettraient ainsi d'obtenir un meilleur statut et une meilleure récompense. Cependant, rien de ce que Balaam pouvait faire ne pouvait changer les paroles qu'il recevrait de Dieu. Lorsque Balaam reçoit le message du Seigneur au verset 8, il est très clair. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? » Balak, peu convaincu, le déplace dans un autre lieu, mais Balaam se révèle au roi le caractère immuable de Dieu, au verset 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » La résolution de Dieu de bénir Israël amène Balak à s'exclamer « Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. » On pourrait penser qu'à ce stade, Balak se rend compte que la cause est perdue, mais au contraire, il s'obstine à vouloir que Balaam maudisse Israël afin que Moab puisse le vaincre. Quel triste état devant le Seigneur! Ce qui aurait dû être un puissant rappel à l'ordre pour Balak a plutôt été un moyen d'attiser son orgueil et son arrogance. Il aurait mieux valu qu'il s'humilie et se jette sur la miséricorde de Dieu. Lors de la troisième tentative pour obtenir une malédiction pour les Israélites, Balaam reçoit l'Esprit du Seigneur sur lui pour prophétiser en faveur d'Israël. Au chapitre 24, versets 17 et 19, Balaam révèle une belle prophétie concernant Jésus. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. » Balaam ne parle pas seulement de la destruction des différents groupes de peuples qui se produira dans un court laps de temps. Dieu a révélé à Balaam des événements qui se produiraient sous le règne de David, la domination de l'Empire assyrien et finalement Jésus, qui amènera toutes les nations sous son autorité. La parole de Dieu à ce sujet est définitive. Lui seul sait ce qui se passera dans l'avenir. Il serait sage que nous tenions compte de ses avertissements et que nous y obéissions pleinement. Après cette dernière tentative infructueuse de maudire Israël pour Balak, Balaam reprend son chemin. J'aimerais pouvoir dire que c'est la fin de son histoire, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Nous lisons en Apocalypse chapitre 2, verset 14, que même si Balaam n'a pas pu maudire directement le peuple d'Israël, il a trouvé un moyen d'obtenir la faveur de Balak. Écrivant à l'église de Pergame, l'Esprit l'avertit par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Apparemment, Balaam ne partit pas sans avoir donné à Balak une idée sur la manière de détruire les Israélites. Balaam pensait que si le peuple se rebellait contre Dieu, soit il se détruirait lui-même par sa propre désobéissance aux lois de Dieu, soit Dieu le punirait et l'affaiblirait. Au chapitre 25, versets 1 et 2, c'est exactement ce qui se passe. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Quel horrible complot Balaam a fomenté, tout cela par désir de gains matériels, de gloire personnelle et d'une position honorée devant ses hommes. Comme il aurait été préférable pour lui de se rendre compte que Dieu parlait au nom de son peuple et que Balaam lui-même aurait pu se tourner vers Dieu et être sauvé. Au lieu de cela, Balaam a causé de graves problèmes au peuple de Dieu, ce qui lui a finalement tout coûté. Au chapitre 31, lorsque les méchants Madianites sont tués, Balaam est cité comme l'un des hommes éliminés lors de cette invasion. Dieu a sa propre manière et son propre calendrier pour juger dans cette vie. Puissions-nous veiller à laisser ce jugement entre ses mains. À cause de l'idolâtrie avec les dieux de Moab, Dieu a envoyé une peste parmi le peuple. 24 000 personnes sont mortes à la suite de ce jugement. Phinéas, petit-fils d'Aaron, animé d'un saint zèle pour le Seigneur, frappa l'un des coupables, qui se trouvait être l'un des chefs du peuple, ainsi que la Madianite avec laquelle il était. À partir de ce moment-là, Dieu ordonna à Moïse de considérer les Madianites comme les ennemis du peuple de Dieu, à cause de leur ruse dans toute cette affaire. Plus tard, nous verrons les Israélites appliquer ce jugement contre leur idolâtrie. Quel terrible chapitre de l'histoire des Israélites! Sur le point d'entrer dans la terre promise, les Israélites sont de nouveau victimes de l'idolâtrie dans les nations des pays. Dieu a soigneusement averti le peuple et il a sévèrement prononcé le jugement. Malgré cela, nous pouvons constater aussi la fidélité incroyable de Dieu. Il est merveilleux de savoir que Dieu reste fidèle à ses promesses, malgré nous et nos penchants pour le péché. Dieu promet toujours d'accomplir sa volonté à travers nous, si nous nous soumettons à lui. Il a la patience de pardonner et de récompenser ceux qui lui sont fidèles. Quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ne perdons pas l'espoir devant cette vérité incroyable. Malgré notre manque de foi, Dieu reste fidèle. Il accomplira son plan dans nos vies. À la prochaine!